Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.
Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Radio Shalom Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les Journées Nationales des Prisons, la 32e édition. Chaque année, lors de la dernière semaine de novembre, partout en France sont organisés de nombreux événements afin de sensibiliser le public aux enjeux carcéraux et pénaux, des projections débats, des cafés débats, des conférences, etc. Le thème de cette 32e journée est « Quelle prison pour faire société ?» Point d'interrogation. Une occasion de briser les murs et de déconstruire les clichés et ou les idées reçues sur le système carcéral et d'aborder de nombreux sujets comme la réinsertion, la lutte contre la récidive ou encore la sortie de la délinquance. Un débat aura lieu ce jeudi à Dijon qui portera notamment, entre autres, sur la justice restaurative et notamment les questions relatives à l'incarcération. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Michel Armand. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez depuis plus de 40 ans vécu au sein ou aux abords et aux abords des prisons. Vous êtes entre autres auteur d'un livre, d'un ouvrage intitulé « L'argot des prisons, dictionnaire du jargon, taulard et maton », mais je crois qu'il y en a plein d'autres. Vous avez aussi réalisé pas mal de chroniques criminelles pour des confrères et des radios.
Merci en tout cas d'avoir bien voulu de me recevoir. Donc effectivement, c'est un titre associatif et en tant que membre du groupe Dijon Prison qui regroupe pratiquement toutes les associations qui interviennent au milieu carcéral dans la région et notamment évidemment à la maison d'arrêt de Dijon. Alors comme vous l'avez dit, cette 32e édition des Journées Nationales des Prisons va se décliner autour de ce thème « La prison, comment faire société ?» C'est un titre certainement un peu sibyllin pour vos auditeurs, qui mérite peut-être une explicitation rapide. Faire société, ça veut dire effectivement penser que toute personne aujourd'hui écrouée, prévenue ou condamnée va évidemment un jour sortir, même les gens qui sont condamnés à perpétuité. Vous savez que dans le droit français, la perpétuité réelle telle qu'elle se pratique dans certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, n'existe pas en droit français. Et donc effectivement, même si, malheureusement, pour certains, cette perpétuité est fort éloignée, ils ressortiront un jour. Donc, ils vont reprendre leur place dans la société. Et quelle place, effectivement, nous souhaitons leur faire, puisque la mission, la double mission de cette administration pénitentiaire, effectivement, dans laquelle j'ai travaillé un peu plus de 40 années, est double. D'une part, effectivement, la garde, c'est effectivement assurer le temps de détention dans la plus grande sécurité possible. On prend peut-être en reparler. Et puis, j'avais envie de dire surtout, en tout cas dans la thématique qui nous préoccupe, la réinsertion, c'est-à-dire tout mettre en œuvre, tout mobiliser pour permettre effectivement aux gens de retrouver une place digne au sein de notre corps social. Alors, effectivement, ça passait traditionnellement par des apprentissages, parfois même les apprentissages basiques. Encore aujourd'hui, bon nombre de détenus sont analphabètes, soit parce qu'effectivement ils ne sont pas locuteurs français de naissance, ou parce que ils ont oublié, effectivement ils sont peu allés à l'école, ou ils ont oublié quelques maigres acquis qu'ils avaient peur y obtenir. Et aujourd'hui, on est plus effectivement, et d'abord, avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, de faire travailler les détenus sur leur acte transgressif. Ce pourquoi, effectivement, ils ont été condamnés. S'il n'y a pas cette réflexion, s'il n'y a pas cette lucidité de la part de ces personnes, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas envisager, il ne faut pas espérer qu'effectivement, ils puissent prendre une autre place et agir autrement qu'effectivement dans la transgression. Je parle notamment à ceux qui sont, je dis pas celles et ceux, parce que la délinquance féminine reste résiduelle, et c'est tant mieux pour ces dames, à l'exclusion effectivement de celles et ceux qui tout de suite tombent dans le cadre d'une procédure criminelle parce qu'ils ont commis effectivement notamment un crime de sang. Voilà. Mais c'est pas parmi cette catégorie pénale qu'on retrouve, loin s'en faut, le plus de récidives.
Donc on parle parle par exemple de personnes qui ont pu voler, ou j'imagine du trafic de stupéfiants, des braquages, etc.
Voilà, les grands classiques, ce dont on parle, ce qui défraye la chronique tous les matins, dans la presse écrite et dans les médias radiophoniques ou télévisuels, c'est effectivement cette délinquance usuelle qui mine, qui use effectivement la population, qui en est la première victime, notamment celles et ceux qui vivent dans ces quartiers qui, sans vouloir les stigmatiser, on appelle les cités, les banlieues, effectivement, payent un lourd tribut à ces agissements délinquentiels qui sont récurrents, permanents, et malheureusement qui prennent des atours de plus en plus violents.
Et donc, avec votre groupe, vous intervenez donc au sein de la prison de Dijon, c'est ça, pour rencontrer des détenus. Comment se passe concrètement le contact avec les détenus? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les détenus?
Alors le groupe Dijon Prison, c'est une entité un peu réflexive. Au sein de ce groupe, donc il y a bien des associations, notamment celle qu'on connaît le mieux, c'est l'Association nationale des visiteurs de prison. Ce sont des personnes de la société civile, comme on dit, qui effectivement donnent de leur temps pour aller visiter régulièrement, hebdomadairement, chaque quinzaine ou chaque mois, une personne qui en a manifester le désir, évidemment. Donc c'est un libre entretien, sans aucune présence d'un agent administratif, un agent d'administration pénitentiaire. La parole circule, la parole est libre. On parle effectivement de ce dont on a envie de parler. Les détenus qui sollicitent effectivement la venue d'un visiteur de prison sont effectivement des personnes qui se trouvent dans un isolat au sein de l'établissement, soit parce qu'effectivement leur famille leur a tourné le dos, et c'est souvent le cas lorsqu'il y a un crime de sang dans une famille, un féminicide, où effectivement c'est difficile pour parfois des enfants ou des tiers familiaux de maintenir des liens constants, réguliers et dans la durée avec la personne incarcérée, la personne condamnée. Et puis il y a effectivement des gens de l'association qu'on appelle le courrier de Beauvais. Beauvais, c'était le nom de la dame qui, dans les années 1950, effectivement, avait pensé établir une relation épistolaire, à l'époque on écrivait, avec détenus isolés. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire c'était cette présence de la société civile au sein de la prison, puisque les agents d'administration pénitentiaire ne peuvent pas tout faire. Les surveillants sont là pour assurer la garde et aussi un lien social au quotidien. Vous avez les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les éducateurs pénitentiaires, et encore une trentaine d'années, qui sont là effectivement pour préparer la sortie et faire un accompagnement social et personnalisé. Ce sont du reste ces personnels qui sont mobilisés dans ces ateliers de justice restaurative, notamment de remédiation cognitive, différentes effectivement modus operandi pour travailler ce qu'on appelle maintenant cette résilience, c'est-à-dire travailler, comme je disais préalablement, sur son acte et acquérir de la lucidité.
Ouais. Et préparer évidemment la sortie, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, et après un enfermement qui soit court ou plus long, c'est un véritable chamboulement aussi de ressortir. Et vous avez parlé de la prison pour faire société, et parlé de justice restaurative. C'est un concept, je crois, qui existe depuis de nombreuses années dans des pays comme le Canada, qui travaille beaucoup justement à la réhabilitation des détenus. Est-ce que l'idée, c'est de trouver des alternatives aussi peut-être à l'enfermement? En tout cas, est-ce que c'est ces questions-là que vous allez soulever ce jeudi?
Alors tout à fait, on va parler de justice restaurative, parce que effectivement, au-delà du fait que c'est une technicité, comme vous l'avez rappelé, qui nous vient notamment du Canada, comme un certain nombre de choses, qu'en France on serait peu capable de réfléchir au-delà des murs. Il faut savoir qu'effectivement, durant les années 50, 60, 70, l'école de criminologie française était plutôt atone, au profit effectivement des écoles anglo-saxonnes. Et donc on avait perdu un peu la main sur tout ça, dans un pays, notre pays, la France, qui effectivement je crois que je peux dire ça tout à fait tranquillement, se fichait comme d'une guigne de ces prisons. Voilà. Si effectivement tout le 19e siècle a été incontestablement ce qu'on a appelé le siècle des prisons, parce que les débats ont été forts à travers les congrès de criminologie, les congrès pénitentiaires qui se tenaient aux quatre coins du monde, les gens traversaient les océans en bateau, de longs voyages, pour aller débattre avec leurs homologues, chercheurs, magistrats, juristes, avocats, sur ces questions pendantes autour de la prison. Et puis, effectivement, avec la Première Guerre mondiale, le courant de pensée s'est délité jusqu'à pratiquement s'éteindre, et la prison française est rentrée dans une période de glaciation, en quelque sorte. Politiquement, la prison n'était clairement plus un enjeu. Elle est redevenue à partir des années 60-70, et notamment ce début des années 70, où les prisons françaises ont été l'objet de situations insurrectionnelles de la part des détenus. Beaucoup de prisons françaises, ça a commencé par la centrale Ney à la maison d'arrêt de Nancy, et puis ça a gagné toutes les prisons françaises qui ont sauté les unes après les autres, entre guillemets. Et l'ACMÉ, ça a été effectivement l'été 1974. Et cette situation a amené effectivement la première réforme entre deux. Effectivement, nous avions changé de président de la République avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui effectivement a pris le problème à bras-le-corps en nommant notamment pour la première fois au sein d'un gouvernement français une secrétaire d'État à la condition pénitentiaire. Voilà. Et effectivement, un certain nombre de réformes et de textes ont jalonné les années qui ont suivi, qui ont desserré un peu l'étau. Il faut savoir, moi j'y travaillais déjà, je suis rentré dans cette administration au tout début des années 1970. C'était un milieu qui était dur pour tout le monde, pour les détenus d'abord, qui n'avaient pas le droit à grand chose, qui étaient soumis à des réglementations très, très, très autoritaires, très fermes, pour les personnels non plus, dans des équipements des prisons qui étaient dans un état absolument catastrophique. Voilà. Et donc tout ça a relancé effectivement le débat public. Et puis en 1975, il y a eu un philosophe qui a publié ce fameux livre Surveiller et punir, dont on a fait grand cas, et qui effectivement a permis de relancer une réflexion sur le sujet.
On parle beaucoup en ce moment, justement, dans les médias, on va dire les médias de grande écoute de la prison. Je pense qu'il se dit parfois des bêtises. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un focus sur l'état, par exemple, de la prison de Dijon? Je crois que vous avez quelques informations. Quelques chiffres.
Quelques chiffres qui sont assez connus. Enfin, les chiffres généraux, on les connaît. Sont ceux de la surpopulation pénale. Alors, il faut être très clair. La surpopulation pénale, qui est une triste réalité dans les prisons françaises, ne concerne que les maisons d'arrêt. Je le rappelle, maisons d'arrêt ne sont censées détenir que des gens prévenus, c'est-à-dire en attente de jugement, et des personnes condamnées à une peine égale ou inférieure à une année d'emprisonnement. Ça, c'est la théorie. En réalité, on trouve des gens déjà condamnés, soit en attente de transfèrement. Et puis, je vais dire pratiquement l'indicible, mais quand même, les médias le savent, l'administration pénitentiaire fait tourner, c'est l'expression qu'on utilise, les détenus les plus problématiques pour éviter qu'effectivement ils s'enquistent là où ils sont et imaginent des scénarios qu'on n'aimerait pas voir se reproduire, notamment en termes de tentatives d'évasion, avec malheureusement bien souvent des tentatives de prise d'otages des personnels de surveillance. Alors le chiffre, au 1er octobre 2025, c'est 84 842 détenus en France. C'est un record absolu depuis toute éternité, et dont effectivement, si ça peut intéresser, 19 000 détenus étrangers, qui représentent par exemple pratiquement 25%, le quart de l'effectif quand même. Hein. Et quand je dis étrangers, c'est bien des gens qui n'ont pas la nationalité française. Voilà. 100 000 personnes en flux sont écrouées chaque année. 100 000 personnes. Et pour notre vieille maison d'arrêt de Dijon, qui a été ouverte en 1855, mais qui est quand même en assez bon état, donc il y a un quartier homme, un quartier femme, il n'y en a pas dans toutes les maisons d'arrêt, il y a 33 places au quartier femme, et un quartier pour mineurs de 12 à 15 places. Voilà. Et donc la maison d'arrêt de Dijon, qui a 180 places, a aujourd'hui un peu plus de 300 détenus. Voilà. Donc ça situe un taux d'occupation à près de 165%. C'est-à-dire que dans une cellule prévue pour une personne, puisque c'est un principe qui a été rappelé maintes et maintes et maintes fois par le législateur à partir de 1875. Les auditeurs l'ont bien entendu, 1875. Et le législateur, régulièrement, je vous fais grâce des dates, a rappelé qu'effectivement, c'était un principe qu'il fallait respecter. Un détenu, une cellule, un détenu. Et c'est pour cette raison que la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas respecter ce principe. Mais comment pourrait-elle le respecter avec un tel afflux de détenus ? C'est bien pour ça qu'en amont, il faut effectivement une réflexion au niveau notamment du corps des magistrats pour éviter autant que faire se peut l'incarcération. Mais évidemment, on sorte à ces problèmes d'opinion et d'exigence de l'opinion publique qui ne comprend pas que des gens qui les ont volés, agressés, détroussés ne soient pas sanctionnés par une peine de prison, puisque dans l'imaginaire collectif, il me semble qu'il n'y a pas de bonne rédemption sans qu'effectivement on ne puisse intégrer la souffrance de l'autre. Il faut que l'autre souffre, je dis souffre entre guillemets, c'est-à-dire paye d'une certaine façon et le paye par sa liberté. Hein. C'est pour ça que les révolutionnaires de 89 ont mis comme peine principale la peine privative de liberté. Que pouvait-il arriver de pire à un citoyen que d'être privé de cette liberté chérie pour laquelle effectivement on avait tant espéré et tant combattu. Voilà. Donc c'est à la naissance de ce que Robert Badinter a appelé la prison républicaine est née effectivement des exigences des philosophes des Lumières repris effectivement par l'Assemblée constituante quand elle a réfléchi notamment aux nouvelles pénalités qu'on trouve dans le code pénal de 1791 qui a effectivement mis fin définitivement aux anciennes pénalités de l'Ancien Régime.
On voit que c'est des questions qui agitent notre pays, et finalement depuis plusieurs centaines d'années. Justement, ce débat sur l'état des lieux et les idées reçues sur la prison et les peines, ça fera partie des interventions qui auront lieu donc ce jeudi, avec notamment François Bellamy du Secours catholique. Et puis, un témoignage, c'est très important de donner la parole aussi, évidemment, aux concernés, de Khaled Miloudi et de Stéphane M.
Oui, à Stéphane qui n'a pas souhaité qu'on donne son patronyme, on peut le comprendre, le numéro. Voilà.
Et sortir de la délinquance avec des témoignages de ces anciens détenus, et c'est toujours important, je pense, d'écouter.
Quand on aborde de la prison, effectivement, la parole est souvent, comme on le fait maintenant, confisquée par des gens ne l'ont pas connue, ou alors indirectement, évidemment. Moi, la prison, j'y ai passé une partie de ma vie, mais évidemment, je ressortais le soir. C'est pas du tout la même expérience. Donc, que c'est notamment ces deux personnes, Khaled Miloudi et Stéphane M, puissent nous dire comment eux ont vécu la prison, leur prison, et comment ils ont vécu leur temps de peine et qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé au demeurant pour qu'effectivement c'est le cas de ces deux personnes avoir évité la récidive, être passé autrement, avoir organisé leur vie sur d'autres valeurs, d'autres organisations plus intimes évidemment, et en quoi peut-être éventuellement l'institution pénitentiaire a pu les aider à changer de trajectoire de vie. Voilà. Là, les opinions divergent selon les détenus. Certains disent, moi, l'administration m'a rien amené à part me garder entre quatre murs. Si j'ai bougé, c'est parce que j'ai fait une démarche personnelle, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai lu, parce que j'ai rencontré des personnes. Et dans les personnes rencontrées, effectivement, il y a tous ces personnes bénévoles de ces associations qui tiennent toute leur place. C'est la tradition française, ça, depuis la fin depuis même la monarchie de Juillet, où on a compté beaucoup sur ce qu'on appelle maintenant la société civile. Hein. À l'époque, on appelait ça des sociétés de patronage. Alors, c'était pas le patronage du jeudi, comme les gens de ma génération, les anciens, les vieux, ont connu avec monsieur le curé ou d'autres instances, mais au sens étymologique, c'est-à-dire accompagner, patronner une personne, l'accompagner, le soutenir dans sa démarche. Et effectivement, avec la loi sur les associations, la loi de 1901, ça a prorogé cette tradition française. C'est pas le cas dans tous les pays où effectivement on compte beaucoup. Et c'est très bien ainsi sur la société civile, parce que la société a le droit de mettre le pied. Voilà. Ça s'est fait de façon formelle à travers ce qu'on appelle les commissions de surveillance, hein, sous l'égide du préfet, dans laquelle effectivement les représentants associatifs ont toute leur place et leur mot à dire, puisqu'ils participent à leur façon sur l'efficience des missions de cette administration pénitentiaire.
Et justement, pour parler de la reconstruction et des victimes et de l'auteur, l'un des débats qui aura lieu ce jeudi, c'est un lien de reconstruction mutuelle auteur-victime, la justice restaurative, avec Blandine Arbor, qui, elle, fait partie de l'Association nationale des visiteurs de prison et qui est praticienne notamment à la maison d'arrêt de Vesoul. Et je crois que c'est vraiment très intéressant aussi de pouvoir entendre et la victime et l'auteur échanger pour mettre les choses peut-être un peu à plat ou de manière horizontale.
Alors c'est ça, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que c'est que la justice restaurative, évidemment il faut s'intéresser à toutes ces questions pour en avoir une petite idée. L'équation est assez simple, c'est mettre en regard une victime, une personne victime d'un agissement délictuel ou criminel avec pas son auteur, si tant est qu'il ait été arrêté, confondu, condamné, mais un détenu qui a été condamné pour une infraction similaire. Prenons un cas de figure malheureusement classique, une agression, un vol avec violence dans la rue, voilà. Une femme agressée ou un homme au demeurant va pouvoir effectivement être confronté à un détenu qui a été condamné pour une infraction similaire. Et effectivement, chacun va pouvoir dire d'abord la victime, c'est d'abord ce qu'on a cherché, parce qu'on a souvent et à bon droit reprocher à la justice française de ne pas donner la place et la juste place aux victimes. Oui, voilà. Et ça, c'était évidemment réclamé à corps et à cri par les associations de victimes à partir des années 1980-90, effectivement, de ne pas avoir son mot à dire et de ne pas être entendu, surtout. Et là, effectivement, à travers ce protocole, ça permet pour la victime de dire comment elle a vécu ça, ce que ça détruit éventuellement chez elle, ou ce que ça abîmait, sans employer un vocabulaire excessif, ce que ça abîmait, la suspicion que ça... On ne vit plus après une agression comme avant, on n'a plus la même insouciance, la même légèreté, on commence, comme familièrement dire, on regarde derrière son épaule quand on est dans la rue, dans le métro, etc. Enfin, dans les villes où il y a un métro, c'est pas le cas de Dijon. Voilà, et ça c'est une souffrance, entre guillemets, que les détenus doivent entendre. Voilà. Parce que souvent, ils le disent après, hein, voilà. On n'en avait pas conscience. Voilà. Que quelqu'un dise, souvent avec beaucoup d'émotion, qu'on sait pas une grande souffrance, de dire, moi, ce qu'on m'a fait, ça m'a foutu en l'air, ou ça m'a foutu en l'air durablement, il m'a fallu des semaines, des mois, voire des années pour me reconstruire, comme on dit, en tout cas pour dépasser tout ça, totalement ou partiellement, ça fait écho. Alors encore une fois, ce sont des protocoles qui se mettent en place de part et d'autre avec des personnes qui sont volontaires pour ce type d'expérimentation.
Voilà. Avec des tiers
alors avec des tiers personnes de ces associations, notamment la NVP, l'Association nationale des visiteurs de prison sur Dijon, est très impliqué dans cette affaire, d'autres associations plus nationales. C'est effectivement un criminologue, Robert Cario, qui est enseignant à l'université de Pau, Pays de l'Adour, qui a effectivement commencé à mettre en place avec des personnes de l'École nationale de l'administration pénitentiaire à vulgariser un peu les protocoles, à les aider s'adapter effectivement au cadre et à la législation française. Et l'administration pénitentiaire a demandé à ses conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de mettre en place ce type d'atelier, ce type de confrontation. Confrontation pour, au sens de combat, hein. C'est pas la victime contre l'auteur, mais c'est pouvoir ensemble réfléchir effectivement aux conséquences des actes. Et incontestablement, ce qui est visé, d'une part, c'est aider la victime, et puis aussi, tout autant, permettre à l'auteur de prendre conscience, effectivement, du dol, pour pas dire du mal, qui est une notion plus morale, en tout cas du dol qu'il a occasionné à sa victime, voilà, ou à ses victimes.
Ouais, certaines personnes pourraient dire oui, mais alors vous mettez, je sais pas si le mot est bien employé, mais vous mettez sur un pied d'égalité, entre guillemets, un auteur et une victime, et finalement... Je pense que c'est là que c'est important pour faire comprendre au grand public. C'est que justement, c'est là peut-être que chacun peut aller trouver ses ressources et de voir dans l'autre, bah oui, il est un auteur, mais peut-être que j'aurais pu l'être ou vice-versa.
Oui, complètement. Je crois qu'il faut du temps, en tout cas pour les victimes et aussi pour les personnes détenues, prévenues ou condamnées. C'est plutôt des personnes condamnées. Hein. Je veux dire, c'est la résultante quand même d'une certaine démarche. Et donc, pour réaliser cette démarche mentale, personnelle, intime, il faut un certain temps. Hein. Il faut un peu de recul, comme on dit, et bien mesurer effectivement ce que ça peut apporter ou ne pas apporter, ou au contraire, peut-être... Par exemple, du côté de la victime, réactiver effectivement un épisode douloureux, réouvrir, pour employer une image commode, des plaies qu'on ne souhaite pas revoir, rouvrir. Et donc, il faut bien effectivement, mais ça, effectivement, les tierces personnes, des associations, déclinent tout ça, c'est-à-dire auprès tant des victimes que des détenus qui sont... candidat entre guillemets à l'expérience, avant de démarrer quoi que ce soit, on informe en tout cas sur les enjeux, voire sur les écueils, parce que quand vous mettez en branle ce type de processus qui vient effectivement travailler l'intime, hein, et la souffrance de l'intime, faut pas faire ça à la légère, et faut pas faire ça avec n'importe qui. Hein. Les gens qui font ça, les tierces personnes dont vous parliez à l'instant, sont des gens qui ont été formés. Vous ne pouvez pas vous improviser effectivement tierce personne et co-animateur de ces ateliers de justice restaurative. Voilà. Le mot veut dire ce qu'il veut dire, restaurer la personne dans leur humanité respective. Voilà. Et si un détenu retrouve effectivement son humanité, il va pouvoir retrouver en société, pour reprendre le thème de cette journée. Et c'est bien ce qui est attendu effectivement de la peine quand on lui a infligé.
Je rappelle, chères auditrices et chers auditeurs, qu'aura lieu donc ce jeudi 20 novembre. C'est les 32e journée nationale des prisons qui dure une semaine, hein, mais le débat aura lieu ce jeudi. Quelle prison pour faire société, pour réfléchir aux nouvelles formes des pénalités aujourd'hui nécessaires dans le cadre donc du groupe Dijon Prison qui organise cette rencontre débat. C'est à 14h à l'amphithéâtre Sciences Po de Dijon, avenue Victor Hugo. Je crois que c'est gratuit, mais il faut réserver, c'est
ça ? Ah oui, puisque maintenant, pour pénétrer dans les espaces collectifs, il faut montrer patte blanche, il y a la sécurité, voilà, c'est tout devient compliqué. Simplement, je donne mon mail, donc c'est jmichelarmand_@gmail.com. Vous me passez un petit mail et je vous rajoute sur la liste, et il n'y aura pas de souci pour que vous accédiez à l'amphithéâtre de Sciences Po. Donc, 14, vous l'avez rappelé, 14 avenue Victor Hugo. Merci en tout cas à vous et à Radio Shalom de m'avoir accueilli pour promouvoir cette journée qui mérite effectivement l'ampleur qu'on lui souhaite.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.